Chapitre 17. Le mercredi 15 juin, entre sa tournée de journaux et la messe, Mike trouva le temps d'inspecter le sous-sol de la maison. Lorsqu'il retira le petit panneau de tôle qui bouchait l'entrée du vide sanitaire, la lumière matinale était déjà chaude, et le soleil assez haut pour que Pêcher et Orme projettent une ombre nette. Il avait apporté sa torche de scout et à présent il éclairait le lugubre espace. Des toiles d'araignées, un sol en terre battue, des piliers de bois soutenant le plancher et encore et toujours des toiles d'araignées. Le vide sanitaire faisait moins de 50 cm de haut et sentait l'urine de chat et la terre mouillée. Mike essaya d'éviter les grosses toiles laiteuses qu'il savait tisser par des veuves noires tandis qu'il se dirigeait à quatre pattes vers la façade de la maison. Pour y arriver, il devait passer sous la chambre de ses parents et le couloir. Il avait l'impression que l'obscurité s'étirait à l'infini et que la lueur derrière lui diminuait. Dans un soudain accès de panique, il se tortilla pour apercevoir le rectangle de lumière et s'assurer qu'il saurait retrouver la sortie. L'ouverture avait l'air tellement loin. Quand il pensa être sous le salon, il voyait les pierres des fondations 3 mètres devant lui, Mike s'arrêta haletant. Son bras droit effleura une entretoise de bois sous le parquet et sa main gauche était emberlificotée dans une toile d'araignée. La poussière montait autour de lui, dansait dans le faisceau de la lampe, saupoudrait ses cheveux et l'obligeait à fermer à demi les yeux.
« Zut alors, je vais être propre pour servir la messe. »
Il rampa vers la gauche et le rayon de sa torche éclaira le mur nord de la maison à 5 mètres environ. Les pierres semblaient noires.
« Merde, enfin !» Zut! Qu'est-ce que je cherche en fin de compte?
Il essaya de se déplacer en cercle pour voir s'il y avait des traces sur le sol. Difficile à dire, la terre était ravinée par le ruissellement de l'eau et piétinée par des générations de chats O'Rourke, sans compter tous les autres petits animaux qui venaient se réfugier ici.
Ça devait être un chat ou un putois, se dit-il soulagé.
Puis il aperçut une ombre sur le sol, mais elle resta noire même quand il l'éclaira. Un morceau de plastique, peut-être, ou un couvercle de bidon oublié par son père. Il rampa plus près et s'arrêta net. C'était un trou rond d'environ 60 cm de diamètre. Il aurait pu y entrer la tête la première. Mais vu l'odeur qui en montait, il ne risquait pas d'en avoir envie. Il cligna des yeux, tendit un peu le cou. La puanteur du tunnel évoquait celle d'un charnier. Il ramassa une pierre, la lança dans le trou. Pas le moindre bruit. Haletant, le cœur battant si fort que Memo devait l'entendre de sa chambre, il essaya d'en éclairer l'intérieur. Il pensa tout d'abord que les parois étaient en argile rouge, puis il vit les stries comme des cartilages sanguinolents, comme l'intérieur d'un boyau animal, comme le tunnel dans la cabane du cimetière. Mike recula précipitamment en se frayant un chemin à travers les toiles d'araignée et les crottes de chat. Il eut un instant de panique.
Il avait perdu de vue le rectangle de lumière. Quelqu'un avait bloqué l'entrée. Non, la voilà.
Il rampa dans cette direction en se cognant la tête contre les lattes. Les toiles d'araignée lui balayaient le visage, mais il s'en moquait. La torche était juste sous lui, pourtant elle n'éclairait rien du tout. Il eut l'impression qu'il y avait d'autres tunnels à gauche, sous la cuisine, mais il n'alla pas voir de plus près. Une forme s'approcha de l'ouverture, cachant la lumière du jour. Il vit 2 bras, 2 jambes, avec des sortes de bandes molletières. La forme s'introduisit dans l'ouverture.
« Mikey ?»
C'était la voix douce et innocente de sa petite sœur.
« Mikey ? Maman dit qu'il faut que tu partes si tu veux arriver à l'heure à l'église. »
Mike faillit s'affaler sur la terre humide. Son bras droit tremblait trop pour le soutenir.
« Ok, Cathy, recule que je puisse sortir. »
Le cœur battant la chamade, Mike sortit et remit en place le panneau.
« Eh bien, tu es dans un drôle d'état ?»
remarqua Kathleen. Mike se regarda. Il était couvert de poussière et de toiles d'araignée, ses 2 coudes saignaient et il avait un goût de boue dans la bouche. Dans un élan de tendresse, il serra sa petite sœur contre lui. Elle lui rendit son étreinte, apparemment sans craindre de se salir elle aussi. Plus de 40 personnes assistèrent à la cérémonie funèbre célébrée dans la plus stricte intimité à Peoria. Duane eut l'impression que son père était déçu par cette nombreuse assistance, comme s'il avait voulu être le seul à dire un dernier adieu à son frère. Mais l'avis de décès paru dans le journal de Peoria et quelques coups de fil donnés par le pater avaient fait venir des gens d'aussi loin que Chicago et Boston. Il y avait aussi quelques ouvriers de l'usine Caterpillar, et l'un d'eux pleura durant la cérémonie. Plusieurs personnes insistèrent pour prononcer quelques mots, l'ouvrier qui pleura à nouveau lorsqu'il prit la parole, leur cousine Carole de Chicago, et une femme séduisante d'une quarantaine d'années que le pater avait présentée comme une amie d'oncle Hart. Duane se demandait combien de temps son oncle et elle avaient été amants. Martin McBride fut le dernier à parler, et Duane trouva son éloge mortuaire extrêmement émouvant. Il ne fit aucune allusion à la possibilité d'une vie après la mort, ni à la récompense d'une vraie vie bien remplie. Il évoqua simplement un être humain qui avait refusé d'adorer les idoles, et qui s'était appliqué à se comporter envers les autres en homme de bien. Il termina par un passage de Shakespeare, l'écrivain préféré de son frère. Duane s'était attendu au célèbre vers, dont Hart eut apprécié l'ironie, que le chant des cohortes d'anges te conduise vers le repos, mais le choix de son père s'était porté sur le chant de Guiderius dans Cymbeline. « Ne crains plus la chaleur du soleil, ni les rages des vents furieux. Tu as fini ta tâche en ce monde, et tu es rentré chez toi, ayant touché tes gages. Garçons et filles chamarrés doivent tous devenir poussière comme les ramoneurs. » La voix du pater se brisa plusieurs fois, mais il continua et articula vigoureusement la fin. « Que nul exorciste ne te tourmente, que nulle magie ne t'ensorcelle, que les spectres sans sépulture te respectent, que rien de funeste ne t'approche, aie une fin tranquille et que ta tombe soit vénérée. » On entendit des sanglots. L'orateur qui avait dit ces vers de mémoire baissa la tête et retourna s'asseoir. Le chant de l'orgue s'éleva et lentement les gens se dispersèrent. Seuls Duane et son père descendirent à l'étage inférieur, assistés à l'incinération. Mike attendit que le père Cavano l'invite au traditionnel petit déjeuner après la communion dominicale pour lui parler de ce qu'il avait vu sous la maison. Gâteaux, amandes et café comme d'habitude. Il avait fallu à Mike plusieurs semaines pour faire admettre au père qu'à 11 ans, il pouvait boire du café. Mais c'était un secret entre eux, comme le surnom de Papa Mobile donné à l'automobile du diocèse. Mike mangea son gâteau tout en se demandant comment formuler sa question. Il ne se voyait pas en train de dire « Mon père, j'ai un petit problème, une espèce de soldat mort creuse sous ma maison pour essayer d'atteindre ma grand-mère. L'église pourrait-elle y faire quelque chose ?» « Vous croyez au mal ?» finit-il par demander.
« Au mal ? Tu veux dire au concept de mal ?»«
Je ne connais pas ce mot. »
Lorsqu'il parlait avec le père Cavano, il avait souvent l'impression d'être stupide.
« Le mal en général, ou les mauvaises actions des hommes ? Ou bien cette sorte de mal ? » ajouta-t-il en lui montrant un journal.
Mike vit la photographie d'un certain Eichmann emprisonné dans un endroit nommé Israël. Mais il n'avait jamais entendu parler de cet homme.
Je crois que je veux dire le mal en général,
répondit-il. Le père Cavano plia le journal.
Ah, la vieille question de l'incarnation du mal. Eh bien, tu sais ce qu'en dit l'Église.
Mike rougit et secoua la tête.
Il va falloir que tu reviennes au catéchisme, Michael.
Oui, mais que dit exactement l'Église sur le mal ?
Le père sortit un paquet de Marlboro de sa poche de chemise, prit une cigarette, l'alluma, puis retira une miette de tabac collée au bout de sa langue.
« Eh bien, dit-il gravement, tu sais que l'Église admet l'existence du mal sous la forme d'une entité séparée. »
Il remarqua le regard interrogateur de son enfant de cœur.
« Par exemple, Satan, le diable. »
« Ah, oui. »
Mike pensa à la puanteur montant du tunnel. Quel rapport avec Satan ? Ses préoccupations lui parurent soudain un peu puériles.
Au cours des siècles, saint Thomas d'Aquin et d'autres théologiens se sont penchés sur ce problème et ont essayé de concilier l'existence du mal avec la toute-puissance de la Trinité telle qu'elle est décrite dans les Écritures. Leurs réponses ne sont guère convaincantes. Mais il n'en reste pas moins que le dogme de l'Église nous ordonne de croire en l'existence d'une force du mal, douée d'un grand pouvoir et assistée d'émissaires. Tu vois ce que je veux dire, Michael ?
Oui, plus ou moins.
Alors, il pourrait y avoir des puissances du mal, comme des anges à l'envers ?
Le père Cavano soupira.
Nous voici pas très loin des croyances médiévales, n'est-ce pas, Michael ? Mais, grosso modo, la réponse est oui. C'est ce que nous enseigne la tradition ecclésiastique.
Quelle sorte de puissance du mal, mon père ?
Quelle sorte ? Eh bien, des démons, bien sûr. Et des incubes et des succubes. Dante en décrit de nombreuses familles et variétés, avec des noms comme Dragignazzo, qui veut dire « semblable à un gros dragon », ou Barbariccia, à la barbe bouclée, et...
Qui est Dante ?
Interrompit Mike, soulagé à l'idée de la présence d'un tel expert dans son entourage. Le père soupira de nouveau et écrasa sa cigarette.
Ah, j'avais oublié les failles du système éducatif de ce septième cercle de l'enfer. Dante est un poète mort depuis environ 6 siècles. Mais je crois que je me suis un peu éloigné de notre sujet.
Mike finit son café et lava soigneusement sa tasse dans l'évier.
Et ces démons, ils peuvent faire du mal ?
Michael, ce sont des chimères sorties de l'esprit des hommes, vivant à une période de profonde ignorance. Dès que les gens tombaient malades, ils accusaient les démons. Et le seul traitement connu, c'était l'application de sangsues.
Ces trucs qui sucent le sang ?
Demanda Mike horrifié.
Exactement. Et les démons étaient considérés comme responsables des maladies, de la débilité mentale.
Il hésita comme s'il venait de se souvenir de Mike avec une petite sœur retardée.
Des apoplexies, du mauvais temps, de la folie, de tout ce qu'on ne savait pas expliquer. Or, on ne savait pratiquement rien expliquer à cette époque.
Mike retourna près de la table.
Mais vous pensez qu'ils ont vraiment existé, ces démons ? Qu'ils existent encore ? Vous croyez qu'ils peuvent encore s'en prendre aux gens ?
Le père Cavano croisa les bras.
Je pense que nous devons à l'Église un système théologique merveilleux, Michael. Mais il faut la considérer comme une drague gigantesque qui cherche de l'or au fond d'une rivière. Certes, elle remonte beaucoup d'or, mais en même temps de la boue.
Mike fronça le sourcil. Il détestait que le père Cavano se mette à faire des comparaisons. Il appelait ça des métaphores, mais l'enfant considérait qu'il noyait le poisson.
Alors, ils existent ou non ?
Insista-t-il. Le père leva les mains.
Peut-être pas au sens littéral, Michael, mais certainement en tant que symbole.
Mais s'ils existaient vraiment, s'obstina Michael, est-ce que les trucs d'église les arrêteraient, comme pour les vampires dans les films ?
Des trucs d'église ?
Demanda le père avec un petit sourire.
Vous savez bien, les crucifix, l'eau bénite, des trucs comme ça ?
Le père souleva les sourcils d'un air interrogateur, mais Mike, préoccupé par sa question, ne le remarqua pas.
Bien entendu, si ces trucs d'église marchent contre les vampires, ils marchent forcément contre les démons, non ?
Mike hocha la tête d'un air songeur. Il en savait assez pour le moment. Le père penserait qu'il débloquait s'il lui parlait du mystérieux soldat après toutes ces histoires de démons et de vampires. Le prêtre invita son enfant de cœur à un dîner de célibataire le surlendemain, ce qu'il faisait environ une fois par mois. Mais Mike dut refuser car Dale lui avait proposé d'aller passer l'après-midi et la soirée à la ferme de son oncle Henry. Ils continueraient leur fouille à la recherche de la caverne des bootleggers, qu'ils essayaient de découvrir depuis qu'ils se connaissaient. Mike n'était pas du tout convaincu de l'existence de cette grotte, mais il aimait bien jouer chez l'oncle Henry. Et les repas à la ferme comportaient toujours, outre des steaks qu'il ne pourrait pas manger un vendredi, de délicieux légumes frais cueillis au jardin. L'enfant fit ses adieux, enfourcha son vélo et pédala comme un fou en direction de chez lui. Il voulait vite tondre la pelouse et terminer les autres corvées pour avoir encore le temps de s'amuser cet après-midi. En passant devant Old Central, il se souvint que Jim Harlan était rentré chez lui et se sentit coupable à l'idée que ni lui ni les autres ne lui avaient rendu visite. Il se rappela aussi que les obsèques de l'oncle de Duane avaient lieu ce jour-là. Puis l'idée de la mort le fit songer à mes mots, peut-être seul à la maison avec Kathleen, et il appuya plus fort sur les pédales. Dale téléphona à Duane ce même soir, mais leur conversation fut brève et difficile. Le garçon paraissait épuisé, et quand Dale prononça quelques mots de réconfort, ils se sentirent aussi embarrassés l'un que l'autre. Dale annonça toutefois à son ami qu'ils devaient tous se retrouver chez son oncle Henry le vendredi soir, et il insista jusqu'à ce que Duane accepte l'invitation. En montant se coucher, Dale n'avait guère le moral.
« Tu crois que cette chose est encore là ?»
chuchota Lawrence un peu plus tard. Il n'avait pas éteint la veilleuse.
« On a regardé, » murmura Dale. « Tu sais bien qu'on n'a rien vu. »
Devant les supplications de Lawrence pour qu'il lui tienne la main, Dale avait transigé en autorisant son petit frère à s'accrocher à sa manche de pyjama.
« Tu sais bien qu'on l'a vu. Maman a dit que c'était juste une ombre. Une ombre qui ouvre une porte de placard. »
Dale frémit en se rappelant cette pression insistante, irrésistible, de la porte du placard qui s'ouvrait malgré tous ses efforts. La créature à l'intérieur avait tout bonnement refusé d'y rester enfermée.
« Je ne sais pas ce que c'était, » dit-il d'une voix tendue. « Mais c'est parti maintenant. »« Non. »
La voix de Lawrence était à peine audible.
« Comment tu le sais ?»« Je le sais. »«
Alors, où c'est ?»«
À la vue. » Mais où donc ?
Dale regarda l'autre lit et vit les yeux de son frère fixés sur lui. Sans les lunettes, ils étaient très grands et très noirs.
C'est toujours sous le lit,
murmura le petit d'une voix ensommeillée. Dale lui prit la main.
À la vue,
marmonna-t-il en s'endormant. Dale regarda l'intervalle de 20 centimètres entre les deux lits. Ils avaient voulu les pousser côte à côte, mais leur mère avait protesté qu'elle ne pourrait plus passer l'aspirateur. 20 centimètres, c'était assez petit pour se sentir proche et trop étroit pour que quelque chose de gros puisse surgir entre eux.
« Mais un bras pourrait passer entre nos deux lits, ou une main griffue, ou une tête au bout d'un long cou. »
Il frissonna de nouveau.
C'était stupide.
Leur mère avait raison, ils avaient tout imaginé, comme les pas de la momie, comme les ovnis venant les enlever.
« Oui, mais ça, on l'a vu. »
Il ferma les yeux et essaya de respirer sans bruit afin de mieux entendre. Au cas où la créature à l'affût se trahirait par un bruit.